De Jésus-Christ selon saint Marc.
Gloire à toi, Seigneur.
Comme les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vient demander à Jésus pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas, comme les disciples de Jean et ceux des pharisiens. Jésus répond : les invités de la noce pourrait-il donc jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé. Ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, la pièce neuve tire sur le vieux tissu et le déchire davantage. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, la fermentation fait éclater les outres et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuf. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Que cet évangile, Seigneur, que cet évangile efface nos péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Oui. On ne peut pas mettre du vin dans des vieilles outres. Si la chose est simple, c'est que quand si vous allez chez les Touaregs, par exemple, chez ils naviguent, ils ont besoin de boire, alors ou des peules aussi, ils se baladent avec dans leur tente, ils ont des grosses gourdes en peau. Et au bout d'un certain temps, non, les bororos, eux, quand ils se baladent, ils marchent beaucoup, alors. Curieusement, ils prennent quelque chose qui n'est pas en cuir de peau, ils prennent des peaux très lourdes, qui sont des peaux en terre cuite. Parce qu'ils baladent toujours au soleil, alors il faut que ça garde la fraîcheur. Alors, ils prennent un petit pichet comme ça. Avec un petit pichet comme ça, normalement, ils tiennent 3 jours de marche. C'est autre chose, mais sinon, lorsqu'ils arrêtent le camp, ils sont des outres comme ça en cuir. Mais ça dure longtemps, une autre en cuir, ça dure. Mais c'est évident qu'à partir du moment où on met d'un seul coup quelque chose de complètement différent, parce que c'est tout, on a eu l'habitude de prendre, on met un nouveau, ça fait éclater, c'est normal, on sait bien, puis ça fait éclater. Alors, c'est la comparaison qui est prise par Jésus pour ce qui concerne l'homme, c'est-à-dire nous. À un moment donné, on sait bien qu'on cherche Dieu, on le cherche, on découvre quelquefois des choses extraordinaires sur Dieu. On découvre qu'il faut vivre de Dieu. On découvre, il y a plusieurs conversions dans une vie. Le fait de découvrir que Dieu est quelque chose de très très grand, de quelque chose de très important, de très intéressant aussi, de très palpitant, de très passionnant, c'est pas tout à fait une conversion. Pas une vraie conversion. Ça va dans le sens, j'allais dire, de la nature, c'est normal. Mais à l'intérieur de cette recherche de Dieu, lorsqu'on a saisi ce lien qu'on a avec notre Créateur, lorsque ça devient un lien d'amour spirituel, et lorsque notre vie tout entière est disposée à l'heure de Dieu, d'un seul coup, il nous convertit. Il envoie son Fils. Il envoie l'Esprit Saint, il envoie le sang de Jésus, il envoie la grâce de la croix, dans notre vie. La grâce de la croix, la présence réelle de Jésus, si vous voulez. Et ça, la vraie conversion. Et pour pouvoir recevoir cette présence de Jésus, cette sainteté, cette union avec le Père, qui est une union directe avec le Père dans son Fils, eh bien, si on ne respecte pas les commandements, c'est l'autre qui explose. Et toutes les grâces reçues jusque-là, on ne peut pas se permettre de dire « C'est Jésus qui vit en moi, c'est le Christ qui m'a saisi » si on ne respecte pas tous les commandements. C'est impossible. Et c'est vrai. Ceux qui ne respectent pas les commandements, ben finalement, vous savez, toutes les grâces reçues n'ont servi à rien du tout. Et heureusement que c'est Jésus, dès qu'on vit de la croix, qui nous permet de vivre des commandements. Il y a un lien quand même très très fort entre les commandements et puis Jésus. Et on sait bien, les apôtres, ils ont très très fort insisté là-dessus, et les premiers pères de l'Église, comme saint Polycarpe, qui était un disciple de saint Jean, ou saint Ignace, hein, avant de partir se faire martyriser au milieu des fauves, à chaque fois qu'ils faisaient des épîtres, hein, c'est pour dire ça. Et c'est pas parce que ça y est, vous avez la connaissance du Messie, que vous pouvez faire n'importe quoi. Pas la connaissance du Messie, on aime Jésus. Et il faut respecter le commandement. Et je crois que ça, dans le temps ordinaire dans lequel nous sommes rentrés, il faut que nous nous le rappelions. Alors, je voudrais du coup. Oui, donnez-moi.
Excusez-moi.
Non, c'est pas grave.
Je prends un médicament. Ah,
je vous dis. Non, je vous en prie.
Excusez-moi.
Alors, je voudrais. C'est notre première question. Alors, je voudrais simplement dire, parce que l'autre jour j'ai rencontré, c'est pour ça que vous connaissez les commandements, je sais bien, mais l'autre jour j'ai rencontré plusieurs fois des chrétiens de longue date, etc. Ils ne connaissaient pas les commandements. Ils ne savaient pas ce que c'était que les commandements. À bien regarder, c'est bon, bah, faut aimer, ils savaient vaguement. Alors quand même, il faut connaître les commandements. Je ne vais pas faire une conférence à la place du sermon, mais quand même, au moins ça. Parce que tu ne tueras pas, ça fait partie des commandements. Je suis désolé, mais c'est vrai quoi, ça fait partie des commandements, tu ne tueras pas. C'est vrai, 10e anniversaire aujourd'hui, combien de Français ont été tués à travers cette loi? 2 millions officiellement, mais... Il paraît que les appartements clandestins ont été multipliés par 5. Alors ça fait combien en tout? C'est dingue. Tu ne tueras pas. On avait fait un calcul avec un ami un peu sociologue, je disais ça à Cotignac l'autre jour. S'il n'y avait jamais eu d'avortement, en France, on serait 110 millions aujourd'hui en France, à peu près. 110 millions de Français, ça veut dire à peu près. C'est quand même pas mal. On serait bien. On serait drôlement content. Alors, ça fait. Parce que c'est très bien de faire de la mystique, vous comprenez bien, mais il faut regarder l'autre aussi. Donc l'autre, c'est les commandements. L'autre, il faut être... C'est vrai, si on garde une manière ancienne de vivre notre humanité, si vous voulez, ça va craquer. Non, il faut vivre tous les commandements. C'est-à-dire que tous les commandements doivent être vécus dans la charité, dans l'amour. Alors, ces commandements... Moi, je crois que c'est bien de s'en rappeler toujours. Vous vous en rappelez, c'est bien tous, mais ça fait rien. Ça fait du bien de me donner tous les commandements de l'Église. Il y a d'abord les 7 péchés capitaux et les 10 commandements de Dieu. et les trois commandements du Nouveau Testament. Alors ça, ça fait en tout, ça fait un... Alors, d'abord, il y a les sept péchés capitaux, il faut s'en rappeler. L'orgueil. Il ne faut pas être orgueilleux. L'orgueil, c'est l'outre qui va faire que toutes les grâces de Jésus qui descendent en nous dans l'Eucharistie, dans le baptême, vont se répandre à terre pour rien du tout. C'est quand je considère que l'autre vraiment est minable. Qu'est-ce qu'il est minable ? Et moi, je suis quand même un petit peu moins minable que lui. L'orgueil fait que je me considère comme un petit peu plus que ce que je suis en réalité, et je considère l'autre comme un peu moins que ce qu'il est en réalité. Qui échappe à ça ? L'orgueil, la paresse, c'est un péché capital, c'est un péché mortel. Péché capital, quand on dit un péché capital, c'est que quand vous rentrez là-dedans, eh bien vous enfantez dans votre vie concrète tous les autres péchés capitaux sans exception. Et tous les autres péchés, c'est vrai. La paresse, c'est quoi ? Pendant 2 heures, hein, allez, la tangente, sur le canapé, la télé, je fais rien. Je perds du temps. Ça fait partie des 7 péchés capitaux, la paresse. Nous sommes sur la terre, pas pour se tourner les pouces, il faut travailler. Il faut travailler. Et le travail capital, c'est le travail de l'esprit, c'est le travail de l'intelligence. Il faut chercher. Il faut. Voyez, on ne peut pas rester sans rien faire. Rester sans rien faire, c'est de la paresse. C'est lamentable. Et il y a une manière de ne pas rester, c'est d'être toujours en récréation. C'est de faire les magasins, c'est de la récréation, c'est de faire les vitrines, c'est d'acheter, c'est de consommer, ça c'est de la paresse. C'est un péché capital. Vous avez le troisième. Et quand on aime Jésus, c'est fini, on ne peut plus. On ne peut plus, c'est pas possible. Dès qu'on a été touché par Jésus, on ne peut plus. On ne peut plus perdre son temps, c'est terminé. La paresse, troisième des péchés capitaux, c'est la gourmandise. Ça, René connaît bien. Hein. Moi aussi, moi je connais la gourmandise. On se rabat sur la gourmandise parce qu'on dit « Oh, c'est pas grave ce péché-là, vous voyez, c'est pas grave. » La gourmandise, c'était se gaver, si vous voulez. Là aussi, il est bien évident que la société de consommation joue un rôle très important. C'est évident, on se gave. La gourmandise consiste simplement à prendre des choses qui sont normales, si vous voulez, dans notre vie, mais à s'en rendre malade. Jusqu'à s'en rendre malade. Alors, c'est pas seulement la nourriture, vous comprenez ? Et c'est vrai ? Moi, je me demande si, par exemple, les gens qui sont... c'est une manière de dire ça, c'est pas mon problème, mais ceux qui sont par exemple dans l'ésotérisme, ils s'intéressent aux choses, ça veut dire divines ou spirituelles, à s'en rendre malade. Parce que dès que je rencontre Dieu, si je ne prends pas cette connaissance de Dieu qui vient du Christ quelque part pour aimer à en mourir à chaque fois, j'ai pas le droit de passer au stade suivant. Mais si je prends que de la connaissance, j'en suis malade. Je deviens malade, c'est vrai. Il y a une curiosité qui est une gourmandise, si vous voulez. Il y a une voracité chez les mysticaux dingos, c'est vrai. Nous, c'est les mysticaux dingos, nous. C'est plutôt ça. Alors, dès qu'il y a une nouvelle révélation, dès qu'il y a une nouvelle prophétie, 94, il y aura des guerres, il y aura du sang, il y aura un machin, il y aura le grand monarque qui va venir. Alors, on se précipite comme des gens affamés là-dessus, comme si on ne regarde même plus le dessert dans l'assiette. On s'intéresse, on se garde de ça, c'est quand même extraordinaire. On fait attention, oui, la gourmandise. Il faut être gourmand, au contraire, de l'extase des ténèbres. Dès qu'on a été touché par Jésus, c'est l'extase des ténèbres. On ne demande qu'une seule chose, vous voyez, c'est de rentrer dans le moment de la fin. C'est les prophéties, c'est de comprendre ce qui va se passer à la fin. À la fin, qu'est-ce qui va se passer? C'est tout simplement, il va tout simplement se passer ce qui s'est passé à la fin du mystère de Jésus, sur ce pèlerinage. Bon, bah, c'est un amour tellement immense qu'il n'y comprend plus rien. Alors, vouloir comprendre, ça casse cet habitus contemplativus finalité, de la finalité, finalitatis, n'est-ce pas? C'est ça, il ne faut pas avoir ces gourmandises. Essayez en tout cas. Et si on en a, vite, tempérer par, en disant, bah, Seigneur, je ne désire qu'une seule chose, c'est d'arriver à désirer. Beaucoup désirer la croix. Parce que le gourmand ne désire pas la croix. Le quatrième péché capital, c'est la colère. Hein, colère, on est en colère, cette espèce de révolte qui gronde tout le temps, et cette attitude défensive continuelle, peut-être qu'on a quelquefois. Ou même qu'on se construit pour se défendre contre son prochain. Le cinquième des sept péchés capitaux, c'est la luxure. Le sixième des sept péchés capitaux, c'est l'avarice. Ah, l'avarice, ça, c'est le seul des sept péchés capitaux avec l'orgueil que nous avons en commun avec Lucifer. Lucifer n'a pas les cinq autres. C'est pour ça qu'il faut avoir une horreur particulière de l'avarice. Parce que Lucifer veut tout garder pour lui. Et enfin, il y a l'envie. L'envie, cette espèce de furieux, toujours fouiner dans les... On ne se contente pas de ce que Jésus nous a dit. Il faut toujours fouiner dans les affaires d'autrui. Cette curiosité malsaine, incroyable. Quand quelqu'un est tranquillement dans sa voiture, qui vous rencontre, ah, faut regarder, faut capter tout, faut tout voir, tout. Et cette espèce de convoitise des yeux extraordinaire. Alors, voyez, au moment où on parle d'un évangile, où on parle du jeûne, le jeûne dont parle Jésus, mais c'est un jeûne des sept péchés capitaux. Il faut faire la cesse des yeux, quoi, enfin. Plutôt que de regarder tout le temps les vitrines, les autres, curiosité malsaine, et puis du coup se gaver, perdre son temps, tout ça, et puis s'engonfler, enfin bref, les sept péchés capitaux, et bien faire la cesse des yeux, tout simplement. C'est ce qu'ont fait les moines du désert, vous savez. Saint Antoine, Macaire, et tout ça. Hein. La cesse des yeux. On ne regarde pas. On ne regarde pas les gens. On ne regarde que Dieu. Il faut savoir dans son temps. C'est une très belle spiritualité d'ailleurs. C'est une règle qu'on doit avoir. Une règle à laquelle on doit vraiment s'obliger. C'est que tous les jours, il faut qu'on pose au moins trois fois un acte d'assaisse de Dieu. C'est pas difficile. Hein? Souvent, on se promène par exemple dans les rues. C'est vrai, surtout quand c'est du côté de la cité universitaire, hein, les yeux sont éveillés, hein, les yeux sont très grands ouverts. Hein. C'est vrai, ça c'est évident. Très très grands ouverts. Eh bien, à un moment donné, tu te dis, non, peut-être pas vous, René, mais... très grands ouverts, pour certaines personnes, tu vois. Alors, on fait la cesse des yeux. La cesse des yeux, c'est quoi? C'est dire, oh là là, j'aurais bien envie de regarder le personnage qui arrive là-bas au loin. Là, hein. Et tu te rends compte que ce mouvement primitif est pris comme ça. Alors, pendant 3 minutes, tu dis au Seigneur, je ne regarde que toi, je ne regarde aucun de ces personnages. C'est dur, hein? Même faites-le déjà 30 secondes, c'est pas commode. Et bien, si vous le faites 3 fois dans la journée, vous êtes rentré dans une règle de vie, une règle concrète, pratique en plus, qui vous permet de lutter contre les 7 péchés capitaux à la fois. La cesse des yeux. Trois fois par jour, faire un acte d'ascèse des yeux. Non, je ne regarderai pas. Ça permet, à ce moment-là, de faire un acte d'adoration. À la place, je me donne entièrement à Dieu et je continue en regardant le trottoir. C'est pour ça que les moines, que vous avez déjà vu dans les films, etc., ils regardent par terre tout le temps. Avec la capuche. C'est à cause de ça. Vous pouvez le faire, vous, trois fois, 15 secondes, non ? Par jour, c'est pas compliqué. De faire ça, c'est très nécessaire. Ne pas le faire du tout, ça veut dire que vous n'avez lutté à aucun moment de la journée contre les péchés capitaux. Ça veut dire que la grâce chrétienne n'a jamais pénétré dans votre journée. Impossible, impossible. Voilà. Et ensuite, les 10 commandements de Dieu. Bon, c'est vrai. Premier commandement de Dieu, tu adoreras ton Dieu. Tu adoreras Dieu seul. Tu ne feras pas d'idolâtrie. Tu n'y devras pas idolâtrie, quoi que ce soit. Tu ne vas pas dire, oh, mais je ne vais pas t'appuyer sur quoi que ce soit d'autre que sur l'adoration. Ça, c'est sûr, il faut adorer, il faut faire ces actes d'adoration. C'est tellement important. Tu n'iras pas voir les voyants, tu n'iras pas voir les voyeurs, tu n'iras pas voir les spirites. Tu feras. Je vous signale que d'après la Vierge de Notre-Dame de la Salette, le spiritisme, c'est la spiritualité de l'Antichrist. Hein, c'est toutes ces histoires de sorties en astral, de tunnels, de lumière en vous. C'est du spiritisme, ça. Il faut pas rentrer là-dedans. Faut rentrer, au contraire, dans. Faut pas regarder en arrière. Hein, regarder simplement dans le présent, la Créateur de Dieu qui en ce moment est en train de me créer et me renouvelle tout le temps dans le Christ, dans la très sainte Trinité. Voilà, deuxième commandement, eh ben, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Et donc, il ne faudra pas trop ricaner sur les choses sacrées. C'est vrai, des blagues sur le pape, hein. Ça, c'est pas nous, nous on blague pas trop sur le pape, mais enfin. Hein, dès que c'est un membre du clergé, on transmet assez facilement un mauvais bruit, vous savez. Assez facilement. Et dès que quelqu'un dit oui, oh, l'église est en crise, la paroisse, les curés sont nuls, etc. Hein, voilà, on est premier sur le plan de tir. C'est vrai, il ne faut pas traîner comme ça dans la ricanerie et le mépris, les curés sont des gens. À mon avis, aujourd'hui, de Castelnau, du Crest, etc., ce sont des héros. C'est héroïque de rester curé aujourd'hui. Héroïque. Je peux vous dire que moi, je ne pourrais pas. C'est héroïque. Mais quand on ricane à propos du curé, il est nul, il ne comprend rien. Ben, mon vieux, je suis désolé, moi. Je suis désolé. Mais c'est pas vrai. On ferait mieux, comme disait Marthe Robin, de prier pour eux, de les soutenir, de considérer que c'est eux le soleil de toute la région. Et d'en glorifier Dieu, et de permettre ainsi que ce soleil brille davantage. Troisième commandement de Dieu, eh bien, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Mais ça veut dire que tu restes. Si tu permets, tu ne mettras pas tout l'humain, tout le temps, ton travail sur la matière. Laissez la matière tranquille, au moins un jour sur sept. Pas d'œuvre servile. Ça, c'est vrai, on ne respecte plus beaucoup ça. Tu ne travailleras pas ce jour-là. Ça, il faut respecter, c'est matériel. Il ne faut pas voir que la sainteté, c'est toujours dans les nuages, hein, quand même. Non, tu ne mettras pas tes mains à un travail manuel le jour du Seigneur, ni à un travail rémunéré. Tu ne dois pas faire ça. Et vous voyez bien que ce commandement est avant, tu ne tueras pas. Donc il est plus important que tu ne tueras pas. Laisse la matière tranquille, la création. Le travail consiste à toucher à la matière, à y mettre une marque humaine. Pas d'œuvre servile. Ah, si on ne peut pas faire la cuisine. Il faut réfléchir. Et c'est pas seulement de ne pas travailler le dimanche, c'est de faire en sorte que ce soit Dieu qui soit le premier travailleur. C'est le travail du Christ, c'est un temps qui est réservé à Dieu. C'est pour honorer Dieu qu'on ne travaille pas. Alors si on n'est pas capable de prier du matin jusqu'au soir, le dimanche, au moins on ne travaille pas. C'est une manière de dire à Dieu, je prie, même si je ne pense pas à toi. Mais qu'on laisse au moins à Dieu une journée, c'est évidemment élémentaire. Hein, pas facile, hein, tout ça, respecter les commandements. Quatrième, tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. À chaque fois que tu dis du mal de quelqu'un qui t'a fait mal pour te venger de lui, que du coup tu tues sa réputation aux yeux des autres, eh bien tu fais un crime, un homicide. C'est un péché mortel. C'est un péché mortel, tu perds toutes les grâces du baptême. À chaque fois qu'on dit une parole de médisance sur quelqu'un, on dit du mal de lui, on dit c'est une brute, c'est une c'est une pourriture, etc. Eh bien, on tue sa réputation. C'est un homicide moral. C'est évidemment beaucoup plus grave qu'un homicide physique, enfin. N'importe qui comprend ça. Un homicide sur le plan spirituel ou moral est plus grave que sur le plan physique. Hein ? On ne comprend pas ça dans nos petites têtes matérialisées. Hein ? On ne doit jamais dire du mal de son prochain. On ne rentre jamais là-dedans. Quand je pense qu'il y a des gens qui disent du mal de leur père et de leur mère, hein, qui leur a donné la vie, et c'est horrible quand j'entends ça, j'ai envie de me fondre sous terre. Dire du mal de son enfant à quelqu'un d'autre. C'est pas un avortement, ça. C'est Saint Pie X qui dit, hein, dire du mal de quelqu'un, la médisance et la calomnie, c'est un homicide. Et ça passe avant les homicides de ceux qu'on juge dans les tribunaux. Ça passe avant. Saint Pie X, le pape qui disait ça. Bon, évidemment, essayez pas non plus de tuer aussi avec un couteau, avec un revolver. Ça, d'accord. Cinquième commandement, ça c'était le cinquième commandement. Le quatrième, c'est tu honoreras ton père et ta mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois les respecter, tu dois les aimer et tu dois subvenir à leurs besoins. Il ne faut pas que tu te permettes de dire allez hop, non, tu dois tout faire pour les subvenir à leurs besoins. À les respecter jusqu'au bout. Tu restes son fils, tu restes la fille de ta mère, jusqu'à la mort. Tu dois prier pour eux s'ils sont partis. Tu dois prier pour eux. Tu dois subvenir à leurs besoins. Tu dois les nourrir. Tu dois pas. Tu dois les recevoir. Hein, c'est vrai. Hein, tu trouves pas que c'est important ça. On n'y pense pas beaucoup aussi à ça. On a perdu ce sens parce que, vous comprenez, il y a la maison de retraite, hein, c'est pas alors. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas mettre ses parents en maison de retraite, mais mais en tout cas, on fait tout, on ne va pas se bagarrer. Et c'est à celui des enfants qui donnera le plus à ses parents, c'est pas à celui qui donnera le moins, c'est pas. Alors. Le sixième commandement, c'est tu ne commettras pas d'impureté. Or, mariage, œuvre de chair, point ne consommera. Or, le mariage, œuvre de chair, point ne consommera. Or du mariage. L'union charnelle est quelque chose d'immense, de sacré, de sublime. C'est comme une messe, comprenez? Alors, le faire en dehors de cette présence réelle de Dieu, mais c'est un sacrilège, c'est une abomination. Ça ne veut pas dire que la sexualité est mal, c'est non, la sexualité, l'œuvre de chair est quelque chose de beaucoup trop grand pour que ce soit livré au porc. Et donc on respecte son corps, et on respecte le corps de l'autre, on ne le touche pas, ni seul, ni avec un autre, ni avec quoi que ce soit d'autre, en dehors du mariage en tout cas, œuvre de chair, notre bon droit, point. Bon, le septième, je dis ça parce que les gens ne savent pas, alors, ouais, je vous assure, moi j'étais un groupe l'autre jour, je dis, mais on ne savait pas tout ça. On ne savait pas pourquoi est-ce que on ne l'a jamais dit. jamais dit. Bon, ben, je vous le dis alors. C'est pour ça que je vous le dis. Au moins, vous, je vous l'aurais dit. Septième commandement. Septième commandement, tu ne voleras pas. Tu ne voleras pas. Ne pas voler, ça consiste... je crois que c'est... Le vol, c'est quand on prend à quelqu'un d'autre quelque chose à quoi il tient. C'est d'être injuste avec quelqu'un. C'est l'injustice. Ça péchait contre la justice. Être injuste avec quelqu'un. Nous avons vu ça l'année dernière en regardant l'éthique. Toutes les questions de la justice. Quand on est injuste avec quelqu'un, quand on lui prend sa réputation, quand on lui prend son honneur, quand on lui prend... Quand il a besoin d'être consolé, quand on le laisse tomber, quand... Une simple parole, un simple sourire. Les gens qui sont injustes ne sourient pas. Parce que le sourire, c'est un acte qui permet de rendre à celui qui est en face de vous ce qu'il est et ce qu'il a. Un sourire honore. C'est Saint Benoît qui dit ça. Tandis que celui qui est injuste, il rit. Il ricane ou il rigole. Stultus in risu exaltat vocem sua. C'est l'imbécile et l'injuste qui fait entendre un son de sa bouche à travers le rire. C'est pour ça que pour Saint Benoît, c'est une des choses les plus horribles qu'un moine qui rit. Ne riez pas.
Mais vous faites pas rire. Oui, votre réponse, hein, qu'est-ce que vous nous faites rire. Sur vous, tout à l'heure.
C'est injustice. Oui. Oui, mais moi aussi, je dois vivre des commandements, vous comprenez, c'est pareil. Il faut de plus en plus, à la place de ces moments où j'ai envie de rire, que je souris. Et c'est vrai, le sourire, un bébé. Quand un bébé commence à sourire, c'est son premier acte d'intelligence. Il sourit. Et sourire à ceux qui... Sourire, tout simplement. Toute la journée, sourire. C'est magnifique. Et c'est vrai que les gens qui sont injustes, ils pleurent tout le temps. Ils sont tout le temps pleurés. Ils sont jamais satisfaits de ce à quoi ils ont droit. Il leur faut toujours plus. On a l'intelligence de Dieu. On sourit. On sourit puisque Dieu met proche de nous un prochain. On sourit. C'est un cadeau quand même. Il est moche. Eh bien, souris puisque... Il faut sourire s'il est moche. Pourquoi ? Tu préfères échanger ? Alors, tu ne mentiras pas. Mentir, c'est de faire un faux témoignage. Bon, mentir, c'est de donner une vérité à quelqu'un alors qu'il n'y a pas droit. C'est trahir un secret, c'est mentir. Et notamment, c'est un péché qu'on commet beaucoup dans le monde moderne. Ça. On y faisait beaucoup d'attention avant ça. Ça, c'est un péché bizarre, celui-là. À cause de la télé, peut-être. Parce qu'à la télé, le journaliste l'interroge. Il livre tous ses secrets. Allez, tout est livré. Son intimité, tout est dit. Allez, un jour, j'ai vu Madame Simone Veil, justement, sur un canapé. Elle disait tout. Il y avait un canapé à la télé. Vous savez, une émission comme ça où on fait venir les gens. Elle disait tout. On dit tout à la télé. Tout. Absolument tout. Tout est dit. Il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus de secrets. Il n'y a plus l'arcane, si vous voulez, ce sens de l'arcane qui était si puissant dans le christianisme. Il y a des secrets. et nous, hein, je ne vise personne, parce que moi, ça m'arrive peut-être. Ah oui, oui, Seigneur est venu, alors, j'ai eu tel truc, telle parole, telle apparition, telle intuition. C'est des secrets, ça. Et la Vierge, elle n'a même pas dit à Joseph rien. Pas savoir garder un secret, c'est effrayant. C'est un mensonge, menteur, menteur, menteur. Et livrer le secret du prochain, il t'a livré un secret. Et puis, c'est un mensonge, hein. C'est le mensonge de l'amitié, c'est le mensonge de l'amour, c'est un mensonge contre l'amour. C'est ça, tu ne mentiras pas. Donner une vérité à quelqu'un alors qu'il n'y a pas droit. Mon père, je demande pardon parce que j'ai fait un mensonge à telle personne. Alors, expliquez-moi la circonstance. Je suis désolé, mais si vous ne lui aviez pas menti, ben, vous auriez fait un péché contre eux, justement, ce mensonge. Et là, au contraire, très bien, c'est très bien fait. Faire attention, quelqu'un, tout le monde n'a pas droit à des vérités, à certaines vérités. C'est vrai, il faut y faire attention à ça. Ça ne veut pas dire mentez, mentez, mentez. Hein. Mensonge diplomatique, allez-y. Non. Ça veut dire ça, c'est en positif, ce que je vous dis. Maintenant, en négatif, ça veut dire que s'il n'a pas droit à la vérité, il faut savoir lui dire en toute vérité, je suis désolé, mais tu n'as pas à le savoir. Il faut savoir être vrai. Je suis désolé, mais je ne peux pas t'expliquer, ce serait trop compliqué. Je suis désolé, mais vraiment, je peux pas te le dire. C'est vrai, on n'est pas assez vrai, on n'est pas assez fort spirituellement dans l'ordre de la lumière et de la vérité et de l'intelligence. C'est vrai, l'intelligence a été homicidée dans le monde moderne. En tout cas, il n'y a plus aucune force de l'intelligence, alors il n'y a plus cette fermeté intérieure qui, non, je dois respecter la vérité, alors. Je ne peux pas te le dire, c'est un secret. Ça va être ferme comme ça, sur les choses intérieures. Voilà. Alors, il y a encore le. Ça, on en était au. Le 9e commandement, tu ne commettras pas l'adultère. L'adultère, c'est différent du 6e sur œuvre de chair hors mariage, point non consommera. C'est autre chose. L'adultère, c'est le fait que tu prennes. Quelque chose qui a été consacré. L'adultère, c'est pas seulement par rapport aux œuvres de chair, c'est par rapport à tout ce qui est consacré. Tout ce qui est consacré. C'est pour ça que dans l'écriture, l'adultère, ça regarde tout ce qui relève du sacré. Et bon, or, c'est vrai que le mariage, un mariage qui a été consacré dans un sacrement, bon, ben, c'est évident que si tu viens dedans pour troubler cette unité sacramentelle, tu fais un adultère, mais c'est parce que tu viens briser le sacré. Tu viens briser, tu viens toucher une présence réelle, sacramentelle, sacrée de Dieu. C'est pas le côté du tout de l'impureté qui est visé, c'est le sacrilège qui est visé. Donc, tu ne commettras pas d'adultère. Et bien évident que si tu fais une fixation, par exemple, il y a des gens comme ça qui font des fixations sur. Dès qu'on voit des prêtres à la télévision, automatiquement, dans l'histoire du film, bon ben, il finit par défroquer pour aller avec avec la petite, vous comprenez, une jeune fille. Ben oui, il n'y a pas d'adultère. Et c'est pourtant contre, c'est le péché d'adultère qui est commis. Hein. C'est le lien sacré du prêtre qui est brisé, qui est touché, qui est abîmé. Donc c'est un adultère. Et on peut le faire en pensée, ça. Hein. En pensée, c'était de prendre quelqu'un qui est lié à quelqu'un d'autre par le lien sacré du mariage, c'est un adultère. Il faut s'interdire à tout prix, ça. Et même en parole. Oh, je le pense pas, je le fais pas, mais je ricane. Je fais une blague. Non, même pas en parole non plus. Bon, très bien. Le 10e commandement, tu ne commettras pas, tu n'auras pas d'envie. C'est tous les autres, quoi. Toutes les autres miasmes. Voilà. Alors, à côté de ça, eh bien, nous avons les commandements du Christ. Tu dois vivre tout le temps dans l'amour, l'amour de Dieu, et du coup, ton prochain est pris tout le temps dans cet amour continuel. Ça, c'est le commandement du Christ, c'est que l'amour de Dieu est si puissant que l'amour du prochain il est intégré. Et je ne me sauve jamais tout seul. Ce n'est pas une connaissance individuelle et personnelle d'amour qui me prend dans le Christ. C'est je suis sauvé et le salut, je l'obtiens pour moi et pour tous ceux qui sont proches de moi. Et c'est avec eux que j'aime. C'est pour ça que j'aime bien venir ici. Nous aimons venir ici. Nous aimons venir dans l'église de Jésus pour vivre des sacrements ensemble. Et puis, il y a le fameux commandement du Père. Le commandement du Père, c'est vie éternelle. Ce que le Père veut. Le commandement du Père, dit Jésus dans Saint Jean. Moi, je le connais, et ce commandement, c'est ma vie éternelle. C'est vivre de la grâce sanctifiante. Et que cette grâce sanctifiante ne cesse jamais d'augmenter. Et la grâce sanctifiante n'augmente jamais en dehors d'un acte personnel lucide d'adoration avec l'Esprit Saint et avec le Christ ressuscité face au Père. C'est le seul moment où la grâce sanctifiante augmente en nous. Et ça, c'est un commandement du Père, c'est pas facultatif. Il faut vivre la vie éternelle dans l'adoration à l'Esprit en vérité. Vous remarquerez qu'à chaque fois que j'adore le Père avec l'Esprit Saint, comme l'Immaculée Conception et le Christ ressuscité dans l'Assomption, et à ce moment-là, tous les autres commandements sont vécus, forcément, étant que c'est sûr. Voilà les 13 commandements et les 7 péchés capitaux. Et peut-être que ça peut être une bonne petite spiritualité toute simple, par exemple, tous les dimanches soirs, une fois par semaine, reprendre celle-ci, reméditer. C'est une méditation. C'est une méditation pour nous préparer à faire un acte d'adoration en esprit, en vérité, pour que notre grâce sanctifiante augmente le soir et s'empare de tous les vides de la journée. Pour que cette grâce sanctifiante puisse augmenter, il faut bien qu'elle augmente en rentrant dans les nouvelles alvéoles qui ont été faites par les bulles vides de nos péchés dans la journée. C'est vrai, c'est beau de faire ça. C'est-à-dire de commencer sa prière du soir avec les 7 péchés capitaux, les 10 commandements, terminé par l'amour de tous ceux qui sont proches de nous dans l'amour de Dieu, et terminé dans une respiration d'adoration d'esprit en vérité, et s'endormir là-dessus. Une très belle prière. Et nos péchés ont servi d'ascenseur. C'est Jésus qui a fait ça.